faut pas baisser la garde, mais le nombre de cas d'infection est en baisse. Les hospitalisations, là, ça baisse un peu, mais pas à la hauteur. Pas à la hauteur du nombre d'infections, par contre. Il y avait une conférence de presse tantôt de la santé publique de Montréal où on nous a dit exactement ça, le docteur Mylène Drouin qui a dit que Montréal est encore dans une situation critique et elle prévoit qu'il y a encore quelques semaines d'efforts à faire. On parle immédiatement avec Sonia Bélanger, présidente et directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, qui était à la conférence de presse. Madame Bélanger, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux?
Ben, écoutez, c'est sûr qu'au niveau communautaire, je pense que le premier ministre l'a mentionné, Dr Drouin aussi, la situation s'améliore. Cependant, si vous me demandez si ça va mieux, comme PDG d'un établissement de santé, je suis obligée de vous répondre que non, ça va pas mieux. On a quand même aujourd'hui, au moment où on se parle, près de 700 patients qui sont hospitalisés. Et 112 patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs et qui sont sous respirateurs. Le nombre de décès aussi, il y en a de façon constante à chaque jour en lien avec la COVID. Fait que pour répondre à votre question, on est encore dans une situation extrêmement préoccupante.
OK. Je regardais là un document de la santé publique de Montréal. Les Montréalais, là, globalement, là, si on est pour trouver un endroit où ils s'infectent, c'est dans le réseau de la santé. Je me trompe ou c'est le plus grand vecteur présentement?
Bien, en fait, non. Je pense que la transmission, elle est vraiment dans la communauté. On est vraiment à un niveau de transmission communautaire. C'est plus de, pour Montréal, là, c'est plus de 700 cas par jour. La grande majorité des cas viennent de la communauté, des milieux de travail, bon, des écoles quand ils sont ouverts, bien sûr, des CPE. Dans le réseau de la santé, il y a des éclosions. Ça, c'est clair. Dans plusieurs hôpitaux à Montréal, il y a eu des éclosions. Mais je dirais pas que les principaux cas viennent des hôpitaux. Ça vient vraiment de la communauté. Naturellement, dans les hôpitaux, ben, quand il y a des éclosions, les gens sont malades, alors on est dans des situations beaucoup plus difficiles.
Dans le document là, où on parle des lieux d'éclosion, des lieux de travail, bon, les milieux de travail, 148 éclosions, le réseau de la santé, 161, oui. Ce qui donne 3482 cas liés. Je veux dire... C'est dur de penser que les gens pognent le coronavirus à la maison et qu'ils l'amènent à l'hôpital. Bien, c'est plutôt le contraire.
Non, c'est vraiment transmission communautaire. Puis c'est sûr que quand on arrive, là, donc, prenons l'exemple dans les hôpitaux, dans les CHSLD, bien, c'est sûr que nos travailleurs de la santé, nos médecins, viennent de la communauté. Donc, ils peuvent aussi contaminer certaines personnes. Les visiteurs, même si les visites sont restreintes actuellement, il y a quand même des visites qui sont permises en CHSLD, dans les hôpitaux, dans certaines situations. Donc, tout ça, ça circule. Donc, c'est pas en vase clos, là. Puis peut-être juste vous parler d'éclosion, vous avez nommé un chiffre important, mais je veux quand même juste vous mentionner, actuellement, sur Montréal, il y a 49 centres d'hébergement de soins de longue durée, 44 ressources privées, donc des CH, des centres pour personnes âgées, et 28 ressources intermédiaires. C'est énorme. Alors, c'est des petites éclosions, c'est pas toujours des très, très grosses éclosions, mais ce que ça nous dit, c'est que le virus circule, il est présent dans la communauté. Donc, c'est pas vraiment juste dans les hôpitaux, là.
Okay.
C'est vraiment populationnel.
Madame Bélanger, il y a 4 quartiers chauds à Montréal. Saint-Léonard-Saint-Michel, Hunsic, Montréal-Nord, le nord de ce qu'on appelle l'île Saint-Laurent, là, qui est au nord, qui est dans la partie nord de Montréal, là, quartier-ville dans ce coin-là. Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Est. 450 cas actifs par 100 000 habitants. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers-là?
Bien, écoutez, il y a beaucoup d'éléments à considérer. D'abord, il faut considérer, je dirais, les déterminants de la santé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi ça, les déterminants de la santé?
Les déterminants de la santé, les personnes. Quel était leur état de santé avant que la COVID arrive? Est-ce qu'il y a plus de maladies chroniques, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de défavorisation sociale? Est-ce qu'il y a plus de pauvreté? Alors, ces éléments-là sont à considérer. La COVID s'installe et va souvent atteindre des personnes qui ont déjà des maladies chroniques ou qui font de l'embonpoint. Et donc, il faut considérer tous ces éléments Quand on regarde ce qui se passe dans un quartier, dans un environnement. L'autre chose, il faut aussi mentionner qu'il y a actuellement une prise en charge extrêmement importante du CIUSSS du Nord et du CIUSSS de l'Est pour faire de la prévention puis pour accélérer les dépistages dans ces milieux-là.
Donc, au-delà de la prévention, qu'est-ce qui explique ça? C'est-tu parce que ce sont des quartiers plus défavorisés, donc on peut penser qu'il y a plus de gens qui vivent dans des endroits plus restreints? Est-ce que c'est parce que les messages de sensibilisation ne les atteignent pas? Vos enquêtes épidémiologiques, comment ils expliquent ces quatre quartiers-là?
Oui, mais en fait, la direction de la santé publique là suit naturellement là ce qui se passe dans ces quartiers-là de façon là vraiment quotidienne. Oui. Et puis ils sont très présents. Mais vous l'avez mentionné dans votre question là. Il y a en fait, il faut regarder les communautés culturelles, les habitudes de vie, des gens des fois qui vont demeurer des familles plus nombreuses dans des logements, moins d'espace pour aller dans la cour, des gens donc, et qui sont dans des situations souvent, certains groupes aussi présentent plus de caractéristiques, plus de maladies chroniques. Alors, c'est tout ça, c'est un ensemble de variables. Il ne faut pas ostraciser les groupes, là, ceci étant dit. C'est un ensemble d'éléments. Mais c'est clair que depuis le début de la vague 1 aussi, depuis l'hiver passé, ces quartiers-là, c'est pas nouveau, ont toujours été plus touchés. Alors, c'est vraiment important. Moi, mon message, c'est l'importance de continuer à dépister puis d'accentuer les dépistages dans ces secteurs-là, oui, puis de continuer à faire la prévention. Il n'y a pas d'autre façon. Là.
Un peu partout dans le monde, Mme Bélanger, on voit qu'il y a un lien entre les quartiers les plus défavorisés puis les éclosions. Quelqu'un là, qui travaille pour le CIUSSS, pour un des CIUSSS à Montréal, là, disons, on va dire, infirmière auxiliaire, un préposé aux bénéficiaires, il se lève demain matin là, et il y a des symptômes. S'il ne rentre pas travailler, est-ce qu'il est payé?
Oui, les travailleurs de la santé sont payés actuellement. Okay. En fait, au contraire, je vous dirais, ce qui est très important puisqu'on véhicule, si vous avez des symptômes, vous ne devez pas vous présenter.
Mais vous comprenez pourquoi je vous pose la question? Oui. C'est parce qu'il y a des gens, oui, si ont le choix entre prendre le risque puis pas payer le loyer à la fin du mois, ils vont probablement prendre le risque. Fait que ce que vous me dites, c'est que chez les employés de la santé, il n'y a pas de pénalité financière présentement si on a des symptômes et on décide de rester à la maison, là.
Non, au contraire. Puis je vous dirais, dans le réseau de la santé, la problématique n'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est peut-être dans d'autres milieux de travail, certains milieux ouvriers où il y a des emplois précaires. Je peux comprendre que certaines personnes vont hésiter à ne pas rentrer au travail parce qu'elles n'ont pas nécessairement là, des couvertures salariales qui les protègent. Mais dans le réseau de la santé et des services sociaux, il reste que c'est quand même un milieu où il y a des conditions favorables. Et puis les gens, quand ils vont à leur test de dépistage et quand ils sont en attente de leurs résultats ou s'ils s'isolent de façon préventive parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un, ils vont être rémunérés.
Très bien. Merci beaucoup, Mme Bélanger.
Bien, merci beaucoup, M. Lagacé.
Bonne fin de semaine. C'était Sonia merci. Bélanger, qui est présidente et directrice générale du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Puis oui, bon, j'ai insisté sur ces quartiers qu'on dit chauds, hein, au chapitre des éclosions, des cas de coronavirus. J'en ai pas parlé avec Mme Bélanger, mais pour ce qui est de Montréal-Est, 1000 cas par 100 000 habitants, c'est 5 fois la moyenne provinciale. Et un peu partout dans le monde, on l'a vu. Là où il y a des poches de pauvreté, il y a plus de coronavirus. Plus on est favorisé au chapitre des revenus, ben moins on est touché par le coronavirus. C'est vrai ici, c'est vrai à New York, c'est vrai à Paris, c'est vrai à Londres, etc. Donc, ce que ça nous montre aussi, c'est que les inégalités qui frappent les uns, ben ça peut frapper tout le monde aussi. Ça peut continuer, ça peut propager des épidémies comme ça.